laisse pas bébé dans un coin.
88 miles à l'heure.
I'll be back.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, vous êtes de retour sur RKS et c'est toujours l'émission Ciné 7 comme tous les dimanches à 19h. On se retrouve tous ensemble pour passer une heure conviviale, une heure d'amusement autour de la musique et du cinéma. Et on se retrouve à 3 ce soir parce que malheureusement ça fait 2 semaines qu'on est 4. On se retrouve à 3 comme il faut dans le studio, au calme. Comment vous allez bien?
Comité pour une fois.
Ça va? Est-ce que t'es en train de dire qu'on est de mauvaise compagnie?
J'ai jamais dit ça.
C'est bien aussi à 3 en vrai.
À 3, c'est bien.
On va bien répartir tant de paroles, ça va être nickel.
C'est cocooning.
C'est cocooning.
Vous allez bien?
Ça va.
Et toi?
Bah, comment ça va bien. T'as bien appris le pli de la semaine dernière.
Bah, attends, Gillian, il nous avait.
Il vous a bien.
Il a mis la barre très très haute.
Voilà. Ça a très très bien.
Donc, bah, non, on te demande comment ça va.
Bah, moi, ça va très bien. J'espère que vous aussi. Maintenant qu'on est officiellement déconfiné, même si on faut faire quand même toujours attention. Et vous aussi, chez vous, en voiture, faites toujours attention. On est là pour vous accompagner, que ce soit à la maison ou ailleurs, mais faites très attention parce que la santé, c'est le principal. Et ce soir, qu'est-ce qu'on écoute, Marvin? Je me tourne vers toi parce que c'est un sujet qui est très important pour nous deux.
Eh ben, on va faire un thème qu'on n'a pas fait encore, c'est un spécial acteur. Donc on va prendre en fait 3 films d'un acteur qu'on apprécie, donc c'est à la forme de Tom Hanks. Donc,
d'un acteur qu'on adore.
Qu'on adore, même. Enfin oui, c'est vrai qu'on l'idolâtre. Donc du coup, ça va être, on va dire un peu ses films, pas les plus connus forcément, mais, ou alors si, mais en tout cas des belles prestations et ce que tout le monde à peu près apprécie dans la filmographie de Tom Hanks. Donc du coup, ça va être La Ligne Verte, Forrest Gump et Philadelphia.
Et ce qui est amusant, c'est que Kylian, tu parlais de santé. En fait, c'est 3 films qui parlent de santé, qui parlent de maladie. On n'a pas fait exprès, mais c'est 3 films où la maladie est un sujet très important.
Ouais, putain, j'ai capté, ouais. Bien vu.
Ouais, c'est vrai.
C'est joli.
Bien joué.
C'est joli. On commence avec
une
musique.
On va y aller tout de suite. Qu'est-ce qu'on écoute au début?
Alors, on va commencer par La Ligne Verte de Franck Darabont. Donc, je laisse Kylian jouer au DJ et on se retrouve juste après sur RKS Radio. On vient d'écouter le thème principal de La Ligne Verte, qui est donc sorti en 1999 et qui est le premier film dont on va vous parler aujourd'hui. Alors, La Ligne Verte, de quoi ça parle ? Ça parle de l'histoire de Paul Edgecombe, qui est un gardien-chef au pénitencier de Cold Mountain, en Louisiane. C'est, comme tous les rôles de Tom Hanks, j'ai envie de dire, quelqu'un de très sympa, de très humain. Et en fait, il arrive au pénitencier un jour, un colosse, un homme qui s'appelle John Coffey, qui est afro-américain et qui est... alors, je perds le mot, aidez-moi, qui est... Il n'est pas condamné, il est...
Si, il est condamné pour avoir... Ah non, non, quand ils arrivent dans le pénitencier, ouais, c'est qu'ils sont condamnés à mort. Ouais, ouais.
Bon, alors, il est déjà
la ligne verte,
c'est
quelques jours avant l'exécution à la chaise électrique.
Bon, ça fait un petit moment que je l'ai vu. Et cet homme-là, en fait, va se lier d'amitié avec le personnage de Tom Hanks. Et c'est difficile de vous en dire plus sans vous spoiler, mais voilà, un très beau film qui dure 3 heures. Donc il faut se ménager du temps dans l'après-midi ou dans la soirée pour le regarder. Et surtout qu'émotionnellement, il est assez difficile à regarder. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que c'est un film qui est une adaptation d'un roman de Stephen King.
Tout à fait.
Qui est l'une des meilleures adaptations.
Oui.
Elle est citée souvent, comme avec La Ligne Verte, Les Évadés, Shining, c'est considéré comme une des meilleures adaptations de Stephen King.
Donc pour ceux qui connaissent
Shining,
après...
Shining, c'est discutable. En tout cas, c'est pas le préféré.
Le film, il est bon, le film.
Ouais, c'est le film qui est bon après l'adaptation, pas forcément.
C'est pas forcément, oui, bien adapté, mais bon.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, bon, maintenant qu'on a dit ça, vous voyez un peu dans quel sens va tourner le film, surtout vers la fin. Mais parce que l'univers de Stephen King est assez particulier, donc... Voilà, c'était juste pour pas que vous soyez surpris, parce que moi, la première fois que je l'ai vu, sans savoir que c'était un Stephen King, j'ai été quand même assez surpris des événements qui se déroulent dans le film.
Bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut surprendre et qui m'a surprise moi, parce que je ne savais pas que c'était adapté d'un roman de Stephen King. Et on nous plante le décor de quelque chose de très sérieux, on a une prison, on a un thème assez dur, et il commence à se passer au fur et à mesure de l'histoire des toute petite dose de fantastique, de surnaturel. Et c'est vrai que si on ne s'y attend pas, ça peut surprendre.
Totalement.
Moi, ce qui était marrant, c'est qu'en fait, Stephen King, il fait souvent des bouquins un peu d'horreur. Mmh. Et là, il nous a montré un peu une facette un peu plus poétique de sa personne. C'est un peu comme aussi, du coup, le film qui était arrivé en 94, qui est aussi réalisé par Frank Darabont, qui est Les Évadés. Moi, j'ai commencé d'abord à regarder Les Évadés dans l'ordre, puis après, je me suis un peu intéressé à sa filmographie et j'ai vu qu'il avait adapté une autre œuvre de Stephen King, qui est La Ligne Verte. Et pour moi, les deux, souvent, ils sont considérés comme des chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre du cinéma, quoi. Ils sont super bons les deux. En plus, ils ont été faits à peu d'années d'écart, ce qui est bon, quoi. C'est une bonne prouesse pour avoir fait deux super films avec si peu de temps, quoi.
Et sans trop spoiler, Les Évadés, qui est un de tes films préférés, qu'on pourrait possiblement retrouver dans un top de...
À la mi-mars, sûrement. Voilà. On réfléchit encore un petit peu, mais il va sûrement être là. Il va sûrement être là.
Donc, à retrouver prochainement sur RKS.
Et mine de rien, en 99, l'année du cinéma en 99, c'était assez dingue. Il y avait Magnolia, il y avait Dans la peau de John Malkovich, il y avait Sixième Sens, il y avait Toy Story 2, La Ligne Verte, il y avait des super films,
ouais.
Fight Club.
Mmh. Et Toy Story où on retrouve Tom Hanks d'ailleurs.
Il fait deux bons films. Et je crois que ce film-là a eu 0 Oscar, ce qui est assez regrettable, mais en même temps, vu la concurrence qu'il y avait derrière, on peut comprendre. Mais peut-être l'acteur Michael Clark Duncan, qui a joué du coup John Coffey dans ce film-là, je crois qu'il a eu un Oscar.
C'est possible.
Je crois. Et petite anecdote d'ailleurs.
Non, il a été nommé. Je suis en train de regarder. Il était nommé pour le second rôle, mais il ne l'a pas eu.
D'accord.
Mais il a eu d'autres prix.
Mais en tout cas, pour l'anecdote, il a eu ce rôle grâce à Bruce Willis, qui du coup l'avait rencontré un an auparavant dans le film Armageddon, et c'est grâce à lui qu'il l'a dit. Je te pousse vers ce film-là parce que Frank Darabont, c'est un super réalisateur et je pense que tu aurais ta chance à intégrer le casting. Et du coup, il l'a fait et c'est super pour lui, quoi. Parce que pour moi, c'est une super prestation qui peut dépasser Tom Hanks dans ce film-là.
Et malheureusement,
décédé en 2012. Ouais.
Voilà. C'est un film donc très très beau, très très poétique. Comme l'a très bien dit Jade, c'est un film auquel il faut être assez accroché parce que la fin. Elle bouleverse un peu.
C'est considéré comme un des films les plus tristes. Souvent, il est classé dans les films les plus tristes et dur à re-regarder. Déjà, d'une part, par sa longueur de 3 heures.
Ouais, ça fait déjà long.
Mais en vrai, 3 heures, je trouve qu'il passe bien.
À la fin, on est fatigué, pas trop.
Ouais, mais je trouve qu'il passe bien. D'ailleurs, il faut noter en vrai que c'est un des rares films où la VF est impeccable. Ouais, vraiment vrai. dans ce film-là, enfin moi j'adore le voir en VF, et des films que comme je disais à Jade, en fait j'ai des films que j'aime pas trop voir en VF, ou alors je regarde en fait quelques minutes et si je vois que ça me plaît pas, bah je passe en VO. Mais moi je trouve que le travail du doubleur des fois c'est assez intéressant, et notamment du coup dans l'univers verte où je trouve que bah le travail est super. Bah après on retrouve la VF récurrente de Tom Hanks qui est super,
qui est exceptionnel, et comme voilà. L'acteur original.
Exactement. Non, c'est vrai que lui il est bon, enfin il est ouais. Bon dans tous les domaines, mais là même la VF de je sais plus comment elle s'appelle sa VF, mais elle est vraiment top quoi, le doubleur.
Par rapport au film et au sujet qu'il aborde, pardon, on a quelque chose de très manichéen. Il y a une distinction entre le bien et le mal qui est un peu la ligne directrice de tout le film. Et moi, ce que j'ai apprécié dans ce film, c'est que rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. On trouve de la nuance dans tout, dans chaque personnage. Et notamment le personnage de Delacroix, qui est un des détenus. Il y a toute une histoire après qu'une petite souris. On se doute que s'il est là, c'est qu'il a fait quelque chose de moralement mal. Mmh. Et on arrive quand même à trouver un peu de lumière, un peu de sympathie et un peu d'humanité dans ce personnage, avec la souris notamment. Et c'est ce que j'aime dans ce film, le fait qu'il y a forcément des personnes qui ont fait des choses mal, on est dans un pénitencier, mais sans rentrer forcément dans les détails de l'histoire de chacun, on nous apporte un peu de nuance et on nous dit, bah regardez, il n'y a pas que du bien, il n'y a pas que du mal, et c'est le cas même dans le personnage de Tom Hanks. Il y a fois où il y a des petites contradictions, notamment à la fin où il se sent coupable de ne pas pouvoir libérer John Coffey, et on joue sur cette culpabilité, sur sa morale à lui.
Bah après, c'est le cas aussi de John, hein, parce qu'il est quand même accusé d'avoir tué deux petites filles.
Et violé. Les deux.
Deux jeunes filles qui ont même pas 10 ans, et en fait, on va très vite s'attacher au personnage, quoi.
Bah, tu dis, si ils ont eu la peine capitale, c'est que forcément, ils ont dû tuer. Enfin, c'est sûrement. Quand tu te fais électrocuter sur la chaise électrique, c'est que sûrement, tu as tué quelqu'un. Mmh. Donc, on sait qu'ils ont fait un des pires crimes, et on arrive quand même à avoir de l'empathie pour eux. Pour pas tous, il y en a un dedans, il y a un détenu qu'on n'aime pas vraiment.
Ouais, mais même le premier qui se fait exécuter, je me souviens plus de son nom.
Il est pas important, mais il parle à un moment, il y a une séquence où il parle de ses meilleurs souvenirs, où c'était avec une fille quand il avait 18 ans et qu'ils ont fait l'amour dans les champs et tout, et que c'était ses meilleurs souvenirs, et que c'est hyper beau comme il le dit, c'est hyper poétique, et en fait, au final, on a du mal à lui... Enfin, on sait pas en fait ce qu'il a fait, mais on a du mal à lui en vouloir, et on a même de la peine quand il meurt.
Clairement.
Et même ce personnage qu'on nous présente comme étant le bien incarné, parce qu'on se doute que lui n'a pas fait les crimes pour lesquels il est accusé, même ce personnage, suite à la scène, alors je ne sais pas dans quelle mesure je peux spoiler, mais quand il y a toute l'histoire avec la femme de leur patron, suite à ça, lui, il aspire un peu le mal de cette femme, et accidentellement, il va rejeter le mal et provoquer quand même le décès d'un co-détenu.
Accidentellement.
Et provoquer le décès d'un co-détenu, c'est pas lui qui le tue.
Bah là-dessus on sait pas, parce que à partir du moment où c'est un film qui est quand même fantastique, on peut s'imaginer qu'il avait quand même la volonté de faire ça.
Bah oui, mais après on nous présente le personnage comme quelqu'un de tellement droit moralement que... Ouais. Mais il s'avère que finalement la justice est rendue, donc...
Clairement.
Ce qui est marrant aussi dans ce film, c'est qu'au début c'est un film, on va dire, assez réel. On peut penser que c'est une histoire vraie, et d'un coup ça nous bascule dans le fantastique au bout de la tête là... Un quart d'heure de film, un petit peu
non,
plus même.
Plus,
ouais, plus. Ouais, c'est vrai qu'il dure 3 heures, putain. Ouais.
Presque une bonne heure. Hein,
ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'il dure, il se dure une plombe, mais du coup, au début, bah, on a l'impression que c'est un personnage classique, un détenu avec des histoires, et en fait, bah, on va comprendre qu'il a des pouvoirs surnaturels. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'avant l'émission, on a un peu débriefé sur l'univers pour savoir les avis à peu près avant de commencer sur l'émission. Et j'aurais demandé s'ils ont capté que John Coffey, c'était en fait la réincarnation de Jésus-Christ.
Une
métaphore.
Absolument pas.
Voilà. Alors, enfin, voilà, c'est dit assez classiquement dans le film, enfin, assez simple. Déjà, les initiales JC, ils partagent les mêmes initiales, les deux personnages. Ces deux personnages qui ont des pouvoirs surnaturels, qui sont assez incompris, qui veulent le bien autour d'eux, et qu'en fait, qui vont se faire condamner à mort. Donc, Jésus, c'est sur la croix, et qui va être cloué, on dit.
Ouais. Crucifié,
exactement le terme. Et John Coffey qui va se faire électrocuter. Donc, en fait, c'est vraiment une réincarnation de Jésus-Christ. De toute façon, il y a beaucoup le thème de la religion dans ce film-là. Il est très présent. Ouais. Il est très, très, très présent.
Mais ce qui est bien, c'est qu'on a eu 3 heures pour comprendre la métaphore, Kylian, et qu'on est passé à côté.
complètement.
Tellement fort.
Genre, vraiment. Et en plus, je l'ai vu deux fois le film, hein, donc j'ai mis 6 heures à pas comprendre la métaphore.
Je l'ai vu beaucoup trop de fois.
C'est vraiment. Ouais, j'ai. Vraiment passé au travers, quoi.
Il y a des scènes qui sont assez marrantes, moi je pense, notamment la scène de l'ouverture. Enfin, en tout cas, quand on va voir John pour la première fois, il va avoir une musique assez pesante, il va avoir Brutal, je crois qu'il s'appelle Brutal, qui est du coup un peu l'adjoint de Paul Edgecombe, qui va dire là on nous amène un colosse, et il va sortir de la voiture, on va voir que ses pieds et ses jambes, il est dans une voiture assez balèze et il arrive quand même à faire bouger les suspensions. Ouais, l'hôtesse se tape une barre de rire à côté de moi
quand il dit ils ont perdu les suspensions.
Voilà, et là du coup il arrive dans le centre pénitentiaire. Et on dévoile pas tout de suite son visage, on va dévoiler d'abord son corps. Les acteurs qui vont en fait le regarder de très haut, mais de très 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 haut, on dirait qu'il fait genre 3 mètres le type. Bah, je pense qu'il fait facilement.
Je crois qu'il était. C'était pas un nain non plus.
Non.
Il doit passer les 2 mètres à mon avis.
Facile, 2 mètres, 2 mètres 10. Et je pense en termes de kilos, c'est facile 150. Ouais. Mais voilà, tout pour dire qu'en fait, on nous montre. Enfin, on va croire que c'est un personnage hyper dangereux. Et dès qu'on voit sa tête, bah, en fait, on a l'impression que c'est un petit gamin tout gentil.
Bah, dès qu'il commence à parler surtout.
Ouais.
Ouais.
Et en plus, il dit, il est poli quand il parle. Enfin, il va dire, oui patron, je sais parler. Enfin, des choses plus simples. Et en fait, tu dis, lui, c'est un peu un petit enfant. Et c'est marrant parce que lui, on va lui demander s'il sait parler. Genre le grand noir, est-ce qu'il sait parler? Et le petit blanc qui est à côté, qui est Percy Wetmore.
Ouais.
Le petit blanc qui gueule et qu'on va lui demander de fermer sa gueule. Tout l'inverse.
1m96 les enfants.
Ah, même pas les 2 mètres. Hein.
Alors, je me demande si pour le film, il a pas été agrandi un petit peu.
Bah, si, il y a des techniques. Hein,
parce que Brutal, il est vachement grand aussi dans ce film-là. Il est montré comme quelqu'un, justement, brutal. Ouais. Enfin, voilà. Je crois qu'il est plus d'un mètre 80. Ouais, mais il est assez balèze, hein, l'acteur.
Bah, après, il y a des techniques. Hein. La technique de filmer en contre-plongée, c'est quand même classique pour faire croire qu'un acteur est plus grand que les autres.
Oui, non, mais voilà, je pense qu'il y a eu des histoires comme ça. Et en vrai, il y a une belle poésie aussi quand. Sans trop spoiler, en fait, on va lui demander un souhait à John. Et il va vouloir voir un film pour la première fois parce qu'il n'a jamais pu voir un film. Et là, du coup, il va avoir une scène dans le cinéma directement où en fait, ils vont le projeter, le film.
Et encore une fois, on se retrouve au cinéma.
Voilà. Bah, c'est, non, mais c'est beau en plus, c'est des belles scènes de cinéma. Et du coup, Paul et Brutus vont lui projeter. Bah, Brutal, putain, je ne vais pas y arriver. Brutal. Vont lui projeter le danseur du dessus. Donc, Top Hat en version originale. Et en fait, il va être émerveillé devant la scène de danse entre Fred Astaire et Ginger Rogers. Et je pense qu'on a la musique sous le clou.
On a la musique.
On va la placer.
Exactement.
Allez, parfait.
À tout de suite. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. The charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
Et c'était le thème de Forrest Gump, réalisé par Robert Zemeckis en 94, et la musique composée par Alan Silvestri, donc de bons amis Alan Silvestri et Robert Zemeckis, avec en rôle principal du coup toujours Tom Hanks qui va interpréter donc du coup le petit Forrest. Donc de quoi parle ce film? Donc du coup ça parle d'un petit garçon qui a une déficience moteur, une déficience mentale, qui va pas forcément être accepté par tout le monde, qui va pas pouvoir aller à l'école comme tout le monde, et qui va faire la rencontre de Jenny, qui va en fait être un peu sa chérie, enfin sa, on va dire la personne qu'il va aimer le plus au monde, avec sa mère. Lui il a toujours été en fait chéri et attendri par sa mère. Tout l'amour que sa mère lui a porté, il va le transmettre à tous les personnages qu'il va rencontrer dans sa vie. Et Jenny, ça va être totalement l'inverse. Jenny va être une personne qui a été violée par son père étant petite et battue. Et malheureusement, elle va s'enfermer dans une spirale négative avec de la drogue et de la prostitution. Et ils vont en gros... Leur destin va se mêler, puis se démêler plusieurs fois dans le film. Forrest va faire plusieurs aventures dans sa vie. En fait, il va parcourir un peu les États-Unis à travers l'histoire, donc avec la guerre du Vietnam.
Différents présidents,
comme par exemple Kennedy et je ne me rappelle plus.
Johnson.
Il y a Reagan aussi, je crois.
Et Nixon, non?
Ah oui, Nixon. Ouais.
Bon, il va aller en Chine pendant la période...
pendant une partie de la guerre froide.
Ouais, voilà, une partie de la guerre froide. Il va devenir capitaine d'un crevettier, il va devenir coureur, il va devenir joueur de ping-pong. En fait, voilà, Forrest va être un peu touche à tout. Il va même rencontrer Elvis Presley et Bob Lennon. John Lennon. Ouais. Oh là là, mon Dieu. John Lennon et Elvis Presley. Et voilà, c'est un super film qui est super léger. Voilà, moi j'adore ce film.
C'est. Donc le film, c'est Tom Hanks, c'est Forrest Gump qui raconte sa vie à des passants, voilà, dans un abribus.
Et est-ce qu'on se serait arrêté pour l'écouter? Je ne suis pas sûre.
Non, je ne pense pas.
On serait passé à côté de quelque chose. Il y a une morale à retenir ici. Écoutez les gens qui parlent aux abribus.
D'ailleurs, il y a des personnes que quand ils l'écoutent sur le banc, ils le croient, et d'autres non. Ouais. Qui pensent que c'est un mythomane.
Bah, quand on regarde le film, même en voyant les images, on a du mal à y croire, hein, quand même.
Bah, faut se dire que ce film-là, faut pas le prendre comme quelque chose de réel. Faut vraiment se dire que c'est une histoire totalement imaginée par.
C'est inspiré d'un livre aussi, je crois.
Oui, ça a inspiré d'un roman, tout à fait. Mm-hmm. Mais je veux dire, il arrive tellement de situations, oui, totalement inédites qu'on sait très bien que c'est faux, et c'est pas grave, c'est ça qui est bien avec ce film, c'est que c'est tout en légèreté et on le prend comme il faut et c'est très bien, quoi.
Notons d'ailleurs que, on va revenir un peu plus sur les sujets du film, mais il y a un travail sur l'incrustation qui est fait dans ce film qui est juste incroyable, où on voit Forrest à la Maison Blanche avec Kennedy, avec Nixon, dans plein de contextes différents, et on a vraiment l'impression que c'est des images d'archives et qu'il a tout fait.
C'est des anciens rushs, en fait.
C'est ça. En fait, c'était un souhait de Tom Hanks. Parce que je crois que dans le livre, il parcourt l'histoire de l'Amérique, mais pas forcément aussi fidèlement que ça. Et c'était vraiment un souhait de Tom Hanks et de Robert Zemeckis que le film s'inscrive autant dans la vraie histoire des États-Unis, traverse l'histoire des États-Unis. Et pour ça, ils ont pris des vraies images d'archives et ils l'ont incrusté dedans. Et c'est vrai que c'est quand même assez bien fait, j'ai trouvé, personnellement.
C'est vrai. Et du coup, ça rend un superbe hommage à l'histoire des États-Unis. Tant d'un point de vue politique, historique, que social ou culturel. Et on en parlait avec Marvin, et c'est vrai que si on est totalement novice à l'histoire des États-Unis, on a quand même un bon tour d'horizon en regardant Forrest Gump des événements majeurs du pays.
C'est sûr. Et ce que je trouve bien aussi dans ce film-là, c'est qu'on a un tour d'horizon de l'histoire des États-Unis, mais ce n'est pas une idolâtrie envers les États-Unis.
Non, c'est assez critique quand même.
On nous montre quand même assez bien les deux versants, surtout par exemple avec la guerre du Vietnam, quoi.
Sachant que c'est la guerre la plus impopulaire des États-Unis, je pense que ça aurait été difficile de la faire passer comme ça, comme une lettre à la poste.
Mais c'est vrai que c'est un très très beau film. Il y a un très beau travail de documentation dessus. Et c'est vrai que... Tiens, d'ailleurs, on ne l'a pas dit. On retrouve un duo d'acteurs dans ce film.
Oui, Gary Sinise et Tom Hanks.
Ouais.
Qu'on retrouve dans La Ligne Verte
dans
aussi.
La Ligne Verte,
dans La Ligne Verte, dans Forrest Gump et dans Apollo 13 de Ron Howard.
Exactement.
Et c'est marrant, en vrai, de les voir... Enfin, surtout, c'est que c'est sorti, je crois, fin 90, les trois films. Donc, ils se sont rencontrés trois fois de suite. Et dans trois rôles assez différents. Enfin, six rôles assez différents, du coup. C'est assez marrant. Et pour Tom Hanks, je pense qu'on est à peu près tous d'accord que c'est sa meilleure performance d'acteur.
Ouais, clairement.
Je pense qu'il n'y a rien à dire. Son Oscar est totalement mérité. En plus, cette année-là, il y avait du lourd. Il y avait Pulp Fiction, Les Évadés, Roi Lion.
Ouais.
94, c'est une bonne année aussi. Je parle de 99, mais 94, c'est une très très bonne année. Et en vrai, je n'avais pas reconnu que c'était Robin Wright pour Jenny. J'avais pas directement reconnu.
Bah moi non plus, puisque je t'ai fait la réflexion.
Ouais, bah après, ouais, bah oui, non, mais ouais, enfin, c'est vrai que cette actrice-là, après, on l'a pas forcément revue dans trop.
Attention,
de
House of Cards.
Oui, mais c'est une série.
Moi, ouais, je parle. Que bah, je n'ai pas
comme,
vu d'ailleurs.
Comme j'ai dit, j'arrête pas de série, moi, j'arrête plus les films. Donc, Mais en vrai, tous les acteurs dedans, ils sont hyper attachants.
Et en parlant des acteurs, est-ce que vous savez qu'il y a une petite anecdote entre Tom Hanks et Sally Field, qui joue sa mère? Ouais. En fait, dans la vraie vie, au moment du tournage et maintenant encore, ils ont que 10 ans d'écart. Voilà.
C'est vrai qu'elle est grimée pour le film. Mmh.
Ouais, au bout d'un moment,
avec plus ou moins de succès. Ouais. Mais...
ouais. Quand elle commence à être un peu plus
à vieillir, vieille, ça se voit. Ouais.
Ouais, on voit vachement les cheveux un peu plus gris. Et moi, j'ai une autre anecdote par rapport aux acteurs, c'est que Tom Hanks, donc à un moment dans le film, il va vouloir courir. Il explique pas pourquoi il veut courir. Voilà. Ouais. C'est tout simplement ça. L'homme veut courir, donc il va courir pendant 3 ans et quelques.
3 et en ans, fait, c'est... 2 mois, 14 jours et 16 heures.
Exactement. Et bah, du coup, en fait, c'est pas Tom Hanks qui va jouer, du coup, enfin, de dos, qui va jouer. En fait, à ce moment-là, il voulait faire jouer un peu ses frères et ses sœurs. Donc, par exemple, c'est son frère qui va jouer, c'est Jim Hanks qui va jouer le jogger. Et il y a une scène aussi à l'entrée du film, enfin au début du film, pardon, où dans le bus, où Forrest Gump il va avoir du mal à trouver une place pour s'asseoir. Et on va voir du coup la fille de Tom Hanks à ce moment-là.
D'accord, ça je le savais
c'est
pas.
C'est bon à savoir.
On en apprend.
Et la fille de Robert Zemeckis aussi.
Ok, j'ai vu. C'est drôle, c'est marrant. C'est j'aime bien ce genre de petite anecdote. Je vais continuer sur une autre anecdote parce que tu parlais de la course. Il y a une journaliste américaine pour le journal qui s'appelle The Week. Et la journaliste s'appelle Lauren Howson, rendons à César ce qui appartient à César, qui s'est penchée sur l'exploit physique que fait Forrest Gump dans le film, avec des spécialistes de fitness, de sport, des coachs sportifs et tout ça, et ils se sont rendus compte que c'est réalisable.
Alors, pas par nous, pas mais c'est réalisable.
Alors, attends, la course ou le ping-pong ou les deux?
Non, la course.
Ok, ouais, ok.
La course est réalisable.
Parce que clairement, le ping-pong, c'est pas possible.
Non, enfin, le ping-pong, c'est pas possible. Mais la course, courir comme ça pendant 3 heures en s'arrêtant que quand on a envie de pisser, quand on a soif, quand on a envie de dormir, c'est réalisable.
Bah, c'est inspiré d'une histoire vraie.
Pas avoir les tendons fragiles.
Ah, voilà.
C'est inspiré de quelqu'un qui l'a vraiment fait, un adolescent de 16 ans, je crois que je l'ai lu. Donc, si lui a pu le faire, Forrest peut le faire aussi.
Bon, après, l'histoire dira que l'état physique dans lequel il termine n'est pas l'état physique dans lequel on devrait terminer après 3 ans de course comme ça. Mais c'est bon à savoir que si vous avez un coup de folie, allez au bout de vos rêves parce que c'est réalisable.
Forrest Gump, c'est aussi une très belle bande originale. Exact. On va passer des petites musiques parce que c'était très difficile. Je pense que ça a été l'un des films le plus compliqué en termes d'intégration de musique
sélection.
Pour cette émission, parce que franchement, toutes les musiques sont super.
Il faut dire que comme Forrest traverse l'histoire des États-Unis, ils nous ont fait traverser l'histoire musicale.
Il y a
et
plusieurs
on a des hits de chaque époque. Donc on commence par quoi?
Moi j'aime bien Fortunate Song.
Allez.
Et bah, c'est
pour
parti.
Pour le Vietnam.
Ouais.
Allez, et bah go.
Et la scène est quand même incroyable. Cheese! Ça réveille, hein. Je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé que ça réveille.
Bon, ça réveille.
C'est peps.
Je vais tenter encore une fois une petite. Comment on dit ?
Je ne peux pas t'aider.
C'est pas grave.
On savait pas de quoi tu parles.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Non, mais. Un lien. Avec, vers une nouvelle anecdote. C'est pas grave. C'était la musique donc, qui arrive quand Tom Hanks est envoyé au Vietnam.
Forrest.
Oui, Forrest. Mais Tom Hanks est envoyé au Vietnam. Et quand il revient du Vietnam, il se fait bon an mal an embarquer dans une manifestation anti-guerre du Vietnam. Avec notamment les Black Panthers. Mais malheureusement, quand il arrive sur le pupitre, son micro se coupe parce qu'il est saboté. Tout le monde se remet la scène.
Je me rappelle, ouais.
Tout à fait.
Et bien là encore, des spécialistes de la lecture sur les lèvres sont allés chercher à savoir ce qu'ils disaient. Bon, je vous épargne toute la phrase en anglais parce que mon accent est horrible. Par contre, je vous la fais en français. Écoutez bien vos oreilles. Ouvrez grand vos oreilles. Quelquefois, quand les gens vont au Vietnam, ils rentrent chez leur maman sans jambes. Quelquefois, ils rentrent pas du tout. C'est moche. C'est tout ce que j'avais à dire sur ça.
Bah, comme d'habitude, il va droit au but.
Ouais, il est simple. C'est du Forrest Gump dans les règles de l'art. Et quand on voit le film et quand on connaît le film, ça a une certaine résonance.
Alors, ce qui est cool, c'est que du coup, ce qu'on aurait pu penser, c'est que c'était un peu un délire du réalisateur de faire ça. Mais qu'en fait, derrière, il a quand même demandé à Tom Hanks de dire une vraie phrase.
Bah oui.
Donc c'est cool. Enfin, il n'a pas fait genre un charabia histoire de faire le gag. Là, ils ont vraiment poussé le truc. Donc potentiellement, il savait que des gens allaient vouloir décrire son speech.
Et clair.
Ce qui peut être cool.
Ouais.
Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que Forrest traverse les périodes, traverse les guerres, traverse les crises. On pourrait totalement utiliser ce personnage pour faire porter un message fort, un message que lui pourrait dire dans le film. Et finalement, il est à chaque fois d'une simplicité désarmante. Il dit jamais rien d'incroyable. Il y a plusieurs fois où des gens lui donnent le micro pour avoir une phrase, quelque chose de symbolique, par exemple, à la fin de sa course, et où il dit « j'avais envie de courir ». Et il y a plusieurs fois comme ça où on essaye de faire reposer sur lui le poids de dire quelque chose, et où lui, dans toute sa simplicité, se contente de dire ce qui lui passe par la tête. Et je trouve ça assez amusant aussi.
Et c'est dans toute sa simplicité, notamment dans les scènes quand il court, c'est dans toute sa simplicité que sort l'éclair de génie qui va aider les autres. Notamment pour le fabricant d'autocollants, de t-shirts et de choses comme ça.
Ça c'est marrant parce qu'en plus il réécrit l'histoire du coup.
Voilà, c'est ça.
Genre c'est lui qui a créé la marque Smiley, enfin créé, en tout cas imaginé le logo. C'est marrant. Et d'ailleurs pour la scène quand il court, on note quand même qu'il y a des sacrés beaux paysages.
Ah oui.
Ça fait une belle fresque des États-Unis, franchement, avec les lacs et tout. En plus, il le dit à un moment, il le dit à Jenny que quand il se levait le matin, il voyait le coucher de soleil, il savait même pas où commençait le ciel, que le lac, on dirait qu'il était scindé en deux.
Mm-hmm.
C'est super beau.
Il y avait deux
quoi.
Ciels.
Ouais.
Et en parlant de Jenny, je pense que les gens qui ont vu le film, qui l'ont vu mourir et qui l'ont entendu dire j'ai un virus. Oui, non mais vous me regardez comme si j'avais fait un spoil énorme.
Oh mon Dieu!
Au bout d'un moment, on est obligé de parler un peu de ce qui se passe dans le film.
Oh mon Dieu! Non, mais quand même. Bref.
Bon, voilà, bon. Ça semble fait.
C'est fait.
C'est fait. Bref, qui ont vu Jenny mourir entendent Jenny dire qu'elle a un virus. À ce moment-là, au vu du contexte, au vu de la période, tout le monde va se dire, moi la première, elle a le sida. Je pense que vous l'avez dit aussi. Et en fait, Jenny n'a pas le sida, puisque une suite a été écrite au livre original où il est dit qu'elle meurt de l'hépatite C. Vous saurez.
Ok. Donc ça lève certains doutes.
D'ailleurs, le roman, au début, c'était possible qu'il y avait une suite. Mais en fait, Robert Zemeckis et Tom Hanks, ils ont lu le roman, ils ont dit « ouais, c'est à chier ». Mais vraiment, ils ont dit ça apparemment. Que c'était pas ouf et qu'en fait, par rapport à leur film, c'était très bien leur histoire et qu'il fallait pas plus.
Ouais,
et je pense qu'ils ont fait le bon choix.
Il n'y a pas besoin de plus.
Mais Robert Zemeckis, il est bon pour ça. Parce qu'il avait déjà dit non à Retour à le futur pour une quatrième. Et là, pareil, et c'est très bien. Je pense que ce film-là se suffit à lui-même. Et...
Des fois, on en parlait la semaine dernière aussi un petit peu avec les séries. Hein. Des fois, faut pas trop faire tirer. Hein. Notamment, on disait que Walking Dead de traîner trop et que du coup beaucoup de gens s'étaient lassés.
Une petite
pour les
pique
films,
notre réalisateur précédent.
Ouais,
tu veux faire passer un message.
Créateur de la série Walking Dead. Hein.
Non, non. Mais je dis juste qu'il faut savoir faire arrêter les choses quand il est temps de les faire arrêter parce que sinon ça devient barbant comme dirait Marvel.
C'est vrai. Ah, c'est et pourtant, si on voulait faire une revisite un peu moderne de Forrest Gump, on ne manquerait pas de sujets en regardant l'Amérique moderne.
Bien sûr.
Mais ce serait le même impact
aujourd'hui. Ah, je sais pas. Bah, faut pas faire un Forrest Gump.
Parce qu'il y aurait pas les. Mais... Par exemple, il y aurait moins les. Enfin, il y aurait pas les guerres, ou alors ce serait les guerres en Orient et tout, ça serait peut-être.
Oh, il y a de quoi faire.
Ouais,
hein.
Mais. Enfin, après, c'est pas vraiment.
On a 2001, on a.
C'est vrai.
On a pas mal de choses en Irak.
Parce qu'après, c'est vrai que c'est un peu la même période, mais je sais pas si vous connaissez le film Le Majordome, qui est assez fort aussi pour ça.
Avec Anthony Hopkins
Forrest Whitaker.
Le majordome, non.
Moi, je connais de nom, mais je ne l'ai pas vu.
À regarder, parce que c'est un très bon film qui parle aussi de l'histoire des États-Unis, qui est plus penché sur l'histoire des Afro-Américains. Et, mais c'est à peu près les mêmes périodes, donc c'est vrai que ça ne nous apprend pas énormément plus.
Et mine de rien, ce film-là, il est quand même top 1 sur Allociné depuis des années, et top 7 sur IMDb, qui est un peu le Allociné français, enfin américain, pardon. Donc ça montre que voilà, les chiffres ne mentent pas, c'est un super film et que je pense que tout le monde devrait découvrir.
Bah, je pense que dans le cœur des gens...
Il est souvent cité comme
un film préféré. Quoi. Et puis, un peu. On en a souvent dit, et celui-là aussi, il est presque
d'utilité publique.
Publique. Je trouve pas mes mots,
c'est
dramatique.
Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est assez simple au final, en termes de réalisation, enfin... À part, oui, du coup, les incrustations historiques sur les personnages, je trouve qu'il est assez filmé classiquement, même l'histoire est assez simple, mais en fait, ça qui plaît, c'est sa légèreté, en fait.
Et je pense que, oui, ça, c'est un des facteurs qui fait que les gens aiment, parce qu'il n'y a pas de prétention, il n'y a pas de...
Il n'est pas difficile
à suivre. Il n'y a pas d'énorme morale, finalement. La morale, c'est bien celle qu'on veut tirer nous-mêmes de ce qu'on nous montre à l'écran. Et je pense que ça plaît aux gens de voir un film, un très beau film, avec un excellent casting, de bonne musique, on va y revenir.
Oui.
Et de très beaux décors, voilà, c'est un film très, très léché, très soigné.
Et puis ce que tu disais, effectivement, il n'est pas bien compliqué à comprendre. Enfin, pareil, il est un peu long, il est plutôt long, je crois qu'il
fait deux heures et demie
à peu près.
Oh, mais ça passe super
bien. Sauf que par rapport à La Ligne Verte, où j'ai trouvé que des fois c'était un peu longué, là ça passe, on les enquille.
Bah, déjà par rapport à La Ligne Verte, il y a un changement de décor. La Ligne Verte, ça se passe seulement dans le couloir de Cold Mountain. Là, on va avoir déjà, pas qu'en Amérique, du coup au Vietnam aussi, on va aller dans des maisons, dans des champs, dans des stades de foot, des salles de ping-pong, enfin un peu de partout, on va aller vraiment de partout, de chez partout.
Et c'est ça qui dynamise bien le film. Quoi.
Et il y a beaucoup plus de personnages aussi.
Ouais,
c'est vrai. D'ailleurs, tous les personnages sont hyper attachants. Moi, j'aime beaucoup, c'est Booba. Alors, je sais plus son vrai nom, mais en tout cas son surnom Booba, avec qui voulait être capitaine du crevettier.
Et qui voulait être capitaine du crevettier.
Voilà, le meilleur ami de Forrest Gump, qu'il a rencontré pendant la guerre du Vietnam.
Qu'il connaît tout sur le
commerce
de la crevette. Et ce film a tellement bien fonctionné et tellement ancré dans le cœur des gens. Pour ceux qui ont la chance d'aller visiter les États-Unis, on trouve des restaurants Booba Gump un peu partout, à New York, à Los Angeles, à Universal Studios. Et ce sont des restaurants qui sont assez prisés. On dirait des restaurants, enfin, c'est des restaurants un peu produits dérivés, si vous voulez, mais c'est des restaurants spécialisés dans la crevette, directement tirés du film. Parce que dans le film, il monte son crevettier, il a son entreprise de crevettes, il a même des restaurants, il me semble. Et donc, les restaurants Booba Gump existent réellement. Et c'est très, très chouette à aller voir quand on est fan du film.
Alors, en parlant de l'entreprise Booba Gump, est-ce que tu veux te confesser sur l'achat que tu as fait dernièrement, Kylian ?
La semaine dernière, pareil, on parlait d'accumuler des choses inutiles en lien avec les films. Et effectivement, j'ai revu le film dernièrement. Et j'ai craqué pour acheter la casquette de Booba Gump du crevettier.
Je veux la voir.
Je l'attends.
Je veux que tu nous la montres la prochaine fois.
La montrerai dès qu'elle arrive dans ma boîte aux lettres.
Il y aura une petite photo sur la page Instagram.
C'est ça.
Ou la belle pub.
Et juste avant qu'on vous fasse profiter d'une autre pause musicale, je veux pousser un coup de gueule. Donc, Booba, il lui arrive ce qui lui arrive. Forrest Gump décide d'acheter un crevettier, de réaliser le rêve de son ami. Et comment est-ce qu'il appelle le crevettier ?
Jenny, mais...
Je craque, oui,
Mais l'entreprise s'appelle Booba.
Non. Bah, la Jenny, là, qui n'arrive pas à sortir de la tête, tu la mets de côté, bah, tu appelles ton crevettier Booba.
Moi, il n'y avait qu'un seul nom qui me venait en tête, c'était le plus beau nom du monde.
Bah, Jenny, oui, parce qu'il pense qu'à elle.
Voilà, il a les yeux que pour Jenny.
Le crevettier, c'était Booba.
Mais oui, ça aurait pu être un bel hommage.
Ouais, mais après, l'entreprise s'appelle Booba quand même.
Mais justement, ça montre qu'en fait, malgré toutes les personnes autour de lui qui est beaucoup plus positive que Jenny, qui lui apporte beaucoup plus de bonheur, parce que Jenny, elle le renie pas mal de fois.
En fait, pas au début de sa vie quand même. Hein.
Oui, pas au début, mais au bout d'un moment. Oui, quand il se remonte, à chaque fois, elle lui fait un coup tordu quoi, de travers.
C'est vrai. Bon, on va continuer à débattre sur Jenny, mais on va vous laisser en musique, je pense.
Voilà. On va mettre une petite musique.
Oui, exactement. Bah, on va pouvoir terminer. Sauf. Non, tu avais une petite chose à nous dire, Marvin. Vestimentairement parlant, parce que tu te moquais de moi avec ma casquette
sur les chaussures.
Mais tu voulais me parler de tes chaussures.
Ah non, les chaussures de Gump. Donc, alors j'ai plus le modèle en tête. C'est des.
Alors sans dire le nom de la marque parce que c'est une marque à la virgule américaine, voilà. Mais le nom du modèle s'appelle Cortez.
Ça commence par un N et ça finit par un E.
Voilà.
Voilà. Et bah que les ventes ont explosé, un peu à la manière des Ray-Ban dans Top Gun. Là, c'est la même chose. Je suis pas sûr qu'ils soient encore commercialisés, par contre, ces chaussures.
Si.
Ça, à peu près les mêmes, en tout cas, mais les mêmes.
Il me semble que oui, parce que c'est tellement devenu une icône que.
Des chaussures rouges et blancs, voilà. Et aussi, moi, j'avais juste une petite anecdote qui était marrante, c'était par rapport au banc, donc le fameux banc mythique de Forrest Gump, qui est dans la petite ville en Alabama. Je ne me rappelle plus la ville, mais en tout cas, voilà, l'État. Ce banc-là a été retiré du lieu public parce qu'en fait, il y avait des saligots qui mettaient des graffitis sur le banc, et du coup, il a été mis dans le musée qui a été dans la ville. Et je pense que c'est une bonne chose parce que c'est quelque chose quand même de mythique, quoi, ce banc.
Et je dirais juste que les chaussures dont on vient de parler sont effectivement commercialisées. Et j'aurais peut-être pas dû le dire parce que je vois qu'Eliane me regardait avec des grands yeux.
Ouais,
mais c'est aussi comme les chaussures de. Bah, en fait, ça me fait penser aussi aux chaussures de McFly.
Bah oui, clairement.
Rouge et blanche, et aussi la même marque.
Une marque qui a su se placer cinématographiquement parlant.
Oui, parce que les chaussures de McFly qui s'autolassent sont de la même marque.
D'ailleurs, il y a énormément de pubs, de placements de produits dans. Il y a la boisson.
Ouais.
Je sais pas si on peut dire le nom, mais en tout cas, voilà, il y a la boisson, il y a la marque
De la pomme.
De la pomme,
oui, c'est vrai.
De la caméra. Les caméras, y a pas mal de marques comme ça en vrai.
Ouais.
On enchaîne.
Donc là, on va pouvoir finir avec une chanson qui s'appelle Go Your Own Way, chantée par
Fleetwood Mac. Je te sauve la vie.
Oui, non, mais je voulais te tendre la perche parce que je savais que c'était une chanson que tu appréciais beaucoup.
battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Avenue till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me, it's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
Vous l'avez reconnu, c'est le boss, c'est Bruce Springsteen pour la musique Streets of Philadelphia, la bande originale de, du film Philadelphia. Et avant d'attaquer sur le résumé du film, je crois que Jade a envie de nous dire quelque chose sur la musique.
Tout à fait. Bon, on connaît Bruce Springsteen, on l'aime beaucoup, il fait partie du patrimoine américain de la chanson. Et justement, il n'a pas été choisi au hasard pour cette chanson originale, puisque le réalisateur s'est dit... ce chanteur-là, il est très apprécié, il est très suivi, il a un public qui l'adore. Et peut-être que le fait de le faire chanter lui, ça va apporter au film un public qu'on n'aurait pas eu à la base, de gens qui ne se seraient pas forcément intéressés à l'histoire d'un homme malade. Et effectivement, ça a fonctionné puisque les audiences sont montées partiellement à cause de ça, ou grâce à ça.
Mmh. Bah, c'est souvent ça, hein, quand on fait venir un grand artiste faire la bande originale d'un film, ça attire. Hein. On ne dira pas de nom, mais je trouve que James Bond est vraiment fort pour faire ça.
C'est un truc que tu allais dire qu'il était né en Philadelphie. Non, je sais pas.
Il me semble qu'il est de l'Amérique un petit peu rurale. Je vais aller regarder.
En tout cas, il est born in the USA. Voilà.
Ah, ouais. Bah ça.
Bon, on va, mis à part ces blagues un peu douteuses, on va revenir sur le synopsis du film. Alors, quel est le synopsis du film ? C'est Tom Hanks, dont j'ai mangé son nom en tant que personnage.
Andrew Beckett.
Andrew Beckett, exactement, qui est un avocat, un illustre avocat, qui est chargé d'une très grosse affaire dans un très gros cabinet d'avocats à Philadelphie. Mais il s'avère que le jour du dépôt de la plainte, un petit imprévu arrive. C'est-à-dire que la plainte doit être déposée à la minute près, parce que sinon le procès n'est pas possible, parce que on dépasse le délai.
Il y a des délais respectés.
C'est ça. Et il s'avère que la plainte avait été préparée par Andrew Beckett très soigneusement sur son bureau, et le lendemain matin, la plainte a disparu. Et à quelques minutes près, on arrive à la retrouver et à la déposer, donc les meubles sont sauvés. Mais ce très très gros cabinet d'avocats, du coup, va virer Andrew Beckett pour faute grave, parce qu'ils ont failli leur faire perdre une très très grosse affaire pour le plus gros cabinet d'avocats de Philadelphie. Il s'avère que Andrew Beckett n'est pas un simple avocat, entre guillemets, même si ça ne concerne que sa vie privée. Il est aussi homosexuel et atteint du sida. Et en fait, Andrew Beckett va aller démarcher d'autres avocats pour attaquer son ancien employeur en justice pour licenciement abusif, pas en tant que faute professionnelle, mais en tant que licenciement abusif, parce qu'il est et homosexuel et séropositif. Et donc, la trame du film, tout le film va être porté là-dessus, donc autour de ce procès-là, de savoir qui ment, on sait à peu près tout de suite, nous, qui ment, qui a magouillé quoi, mais tout l'enjeu du film, c'est de jouer là-dessus, de savoir quel va être le dénouement de ce procès-là. Et donc, vous imaginez après tout ce qui se passe derrière, avec les questions d'acceptation de soi, de l'autre, de la maladie. Et on est aussi, moi je trouve que c'est important de le dire, on a une époque où la maladie du sida et le virus du VIH sont très très mal connus, et notamment la scène de rencontre entre Denzel Washington et Tom Hanks, où il se serre la main et que Denzel Washington va tout de suite aller se faire dépister parce qu'il a peur d'attraper le sida juste en serrant la main.
C'est inconnu encore.
Voilà, donc c'est une période qui est très inconnue, et c'est aussi pour ça que le licenciement a eu lieu, parce que c'est une période où on avait très très peur de ce virus-là.
Alors, je suis loin d'être une experte en Tom Hanks, contrairement à vous deux. J'ai découvert la plupart de ses films, j'avais même jamais vu Forrest Gump, et j'avais jamais vu Philadelphia. Je ne connaissais même pas le speech du film. J'ai découvert le nom de la chanson de Bruce Springsteen, parce que je l'avais déjà entendu, mais je ne m'étais jamais penchée dessus. Donc autant vous dire que je suis arrivée dans ce film en ne sachant rien. Et je l'ai vraiment beaucoup apprécié, parce que comme tu dis, c'est un film qui est sorti en 1993 et il a dépoussiéré plein de croyances fausses en fait sur le sida, qui est une maladie extrêmement stigmatisée encore aujourd'hui. On arrive un peu à éduquer les gens sur la question, à les sensibiliser, mais c'est vrai qu'il y a des scènes qui crèvent le cœur, notamment comme tu dis, la scène de rencontre, où même à l'instant où il apprend qu'Andrew a le sida, il s'éloigne le plus possible, il se retranche dans un coin de son bureau, il le voit toucher des objets, il se dit « oh là là, qu'est-ce qui va m'infecter celui-là ?» Et je trouve que c'est un film très touchant, qui est assez bien tourné, on reviendra dessus, c'est assez habilement fait par rapport aux acteurs et aux jeux de regard notamment. Mais en tout cas, ouais, un très beau film, et qui parle pas seulement de la maladie, qui parle du rejet en fait, du rejet social, ils en parlent du suicide entre guillemets social, qui pose des questions aussi, je trouve, sur le racisme, sur l'avocat noir, sur la stigmatisation qui peut en découler. Et vraiment une belle découverte. Donc je vais vous laisser enchaîner dessus, mais j'ai beaucoup apprécié ce film.
Alors moi, pour être un grand fan de Tom Hanks, j'ai découvert ce film il n'y a pas si longtemps que ça. C'était le seul film qu'il fallait que je découvre pour l'émission. Alors c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, malgré quand même des grosses longueurs sur ce film-là.
Ouais, clairement.
En fait, c'est un film que j'apprécie, mais je sais que je vais avoir du mal peut-être à le revoir, ou en tout cas, il ne va pas rester dans ma mémoire, que j'ai peut-être oublié pas mal de passages. C'est d'ailleurs celui-là où j'ai moins de choses à dire, malheureusement. Dû aussi, notamment, je pense, au fait que en fait, ça se passe dans un seul et unique décor, quasi, dans tout ce qui est bureau d'avocat, et alors je ne sais plus comment ça s'appelle, où il y a le juge.
La cour d'assises.
La cour d'assises, voilà.
J'allais dire le tribunal, j'ai fait plus simple.
C'est assez long. Par contre, ce que j'aime beaucoup dans ce film-là, c'est, en fait, c'est un peu le clin d'œil qu'il va faire à son ancien film. Donc, Jonathan Demme qui a réalisé Le Silence des Agneaux, donc sorti en 91, avec Anthony Hopkins. Et en fait, pour ceux qui ont vu le film, donc Hannibal Lecter, il va en fait regarder la caméra fixement pendant de longues minutes sans cligner les yeux, et on a l'impression en fait qu'il nous parle à nous. Et là, ça va être un peu pareil quand Denzel Washington, donc l'ami de Andrew Beckett qui est aussi avocat, va parler au juge. Et ben en fait, on va être à la place du juge, comme si c'est à nous de prendre la décision, et on va du coup se sentir beaucoup, enfin très impliqué dans l'histoire et dans ce film là. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et que ça m'a assez marqué quoi. Ouais. C'est assez bien réalisé pour ça.
Et ce film, du coup, Tom Hanks a reçu l'Oscar du meilleur acteur et Bruce Springsteen a eu la meilleure chanson originale. Mais je ne veux pas lancer dans de gros débats, mais je trouve que Denzel Washington porte plus le film que Tom Hanks.
Après, il y a aussi une transformation physique assez incroyable de Tom Hanks pour le rôle.
C'est là-dessus que ça a fait pencher la balance.
Et c'est son premier Oscar.
Ouais. Et le deuxième, c'est Forrest Gump, on l'a dit tout à l'heure.
Mine de rien, 93 et 94. Hein. Mm-hmm. Je ne sais pas s'il y a un acteur qui a fait deux fois de suite
l'Oscar du meilleur acteur.
Je suis pas sûr, mais en tout cas, lui, ça a été le premier, je pense.
Ouais. J'avais une petite chose à vous dire, parce que un petit coup de gueule qui a été porté contre le film, parce que mis à part que ce soit un film très très bon, à aucun moment il n'est stipulé que le film est inspiré d'histoires vraies dans la version, quand on regarde le film. C'est même écrit, à un moment, il me semble que c'est écrit que c'est inspiré d'un livre, mais en fait c'est inspiré d'une histoire vraie, c'est inspiré du procès ayant opposé donc Geoffrey Bowers et Clarence B. Klein, donc pour les mêmes raisons. Et en fait, il y a eu, donc mis à part le procès dans le film, il y a eu un réel procès entre les producteurs et le réalisateur et la famille du coup de Geoffrey Bowers. Et en fait, voilà, parce que à aucun moment ce n'est stipulé, et la famille avait envie de rendre hommage à cette personne-là, parce que pour les mêmes raisons, il a été licencié abusivement, et il fallait que la justice soit faite.
Il y a aussi quelque chose qui est beau dans ce film-là, c'est à la fin du film, on va avoir des images d'archives de Andrew Beckett étant jeune, sur la plage avec sa sœur et tout ça, et en fait, il ressemble étrangement à Tom Hanks. Et en fait, c'est véritablement des images d'archives de Tom Hanks quand il était jeune. Donc c'est joli, c'est assez original et c'est très beau, quoi.
Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que des films qui retranscrivent un procès, on en a pas mal, et c'est pas toujours bien fait. C'est difficile de faire s'intéresser à la justice des gens qui sont pas forcément du milieu, ou enfin c'est difficile de les faire rentrer dans l'histoire. J'ai trouvé que le procès était assez bien mené, déjà pour ce que disait Marvin, parce que on prend le spectateur à témoin, on le met à la place des jurés, mais aussi parce que il est entrecoupé, on le voit en plusieurs fois parce que ça se déroule sur plusieurs jours. Les faits sont assez bien expliqués, il y a toute la scène avec le miroir où on est vraiment pris à partie, et je trouve que c'est assez bien amené et que ça aide aussi à se mettre dans le film, parce que toute la dernière partie du film, finalement, c'est un procès. On pourrait totalement sortir du film et se dire bon, à partir de là j'arrête de suivre, et moi ça a eu l'effet inverse, ça m'a vraiment intéressé et ça a fait que j'étais en fait vraiment investie dans ce qui allait se passer pour la suite d'Andrew Beckett, en fait la suite de sa vie.
Mais clairement, du coup, c'est un très très beau film, comme tu l'as très bien dit. C'est un des premiers qui dépoussière vraiment tout ce qui est tabou sur l'homosexualité et sur la séropositivité plus particulièrement.
On se fait un petit top ?
C'est l'ordre des petits tops de Marvin, exactement.
Allez, bah tu commences ?
Non, je veux pas commencer, là c'est trop compliqué.
Allez, je me lance dessus, donc Forrest Gump, La Ligne Verte et Philadelphia. Voilà.
J'aurais tendance à dire Forrest Gump, Philadelphia et La Ligne Verte.
Et moi je vais suivre Jade, même si c'est très très compliqué de faire un top, parce que bon, on l'a dit et répété, c'est notre acteur préféré, c'est trois films exceptionnels, mais je pense que je vais être d'accord avec Jade à dire Forrest Gump, Philadelphia et La Ligne Verte.
Dans tous les cas, Forrest Gump numéro 1.
Dans tous les cas.
On est souvent d'accord pour le numéro 1.
C'est vrai, moi c'est cool.
Soit pour le numéro 1, soit pour le dernier, souvent.
Bon, et maintenant, on n'a plus qu'à clôturer avec...
on n'a plus qu'à clôturer, donc...
De quoi on va parler la semaine prochaine.
Voilà. De quoi on va parler la semaine prochaine. Un terme un peu plus léger, Jade.
Eh bien, on va se replonger un peu en enfance, puisqu'on va parler de Noël, et notamment avec trois films d'animation. Je ne les cite pas. Non. On vous laisse la surprise, mais en tout cas, on va se faire un petit plaisir pour cette période des fêtes.
Pour préparer ces fêtes, alors avec l'année compliquée qu'on a eue, on va aller se faire plaisir à retomber en enfance et avoir de très beaux films d'animation. Et puis, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour parler un spécial Noël. Et comme chaque semaine, vous pouvez retrouver toutes les émissions, dont celle-ci, en podcast sur le site de radio-rks.fr et sur l'application radio-rks.fr. Vous pouvez aussi retrouver la playlist de l'émission avec quelques bonus, comme chaque semaine aussi sur la page YouTube de radio-rks.fr. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram ciné7-rks pour avoir toutes les actualités.
Le petit best-of de chaque émission.
Le petit best-of et les notifications pour vous tenir au courant de ce qui va se passer la semaine prochaine. Et puis on vous laisse. Bonne soirée, portez-vous bien comme à chaque fois, et on se retrouve nous la semaine prochaine pour un spécial Noël.
Bonne soirée à tous.